Aujourd'hui, en ce 4 janvier, c'est la fête à travers l'Église d'une bienheureuse qui n'a pas été canonisée, mais les papes l'ont reconnue à travers les siècles, et sa fête est grandement célébrée à travers le monde, un peu partout, particulièrement chez les franciscains. C'est la bienheureuse Angèle de Foligno, l'une des grandes mystiques de l'histoire de l'Église, qui est née en 1249 et qui est décédée en 1309. Il y a donc près de 700 ans. C'est une femme exceptionnelle, c'est une veuve qui a su comprendre qu'à travers son veuvage, Dieu la voulait tout à lui et elle s'est donnée à Dieu. C'est l'une, comme je vous ai dit, l'une des plus grandes mystiques du Moyen-Âge. Elle a vécu jusqu'à l'âge d'environ 40 ans, une vie plutôt dissipée, plutôt coupable, s'intéressant aux niaiseries, aux futilités, à la mode, aux danses, à toutes sortes de petites choses qui distraient facilement l'âme de l'essentiel. Et elle s'est convertie brutalement. Et elle a revêtu, finalement, le vêtement des tertiaires franciscaines, car les membres du troisième ordre, il y avait le premier ordre, je vous le rappelle, ce sont les moines franciscains, le deuxième ordre, ce sont les clarisses, comme on en a à Valleyfield. J'avais déjà fait un film sur elle qui a émerveillé une grande partie de l'auditoire par la qualité des témoignages de ces moniales exceptionnelles. Et ça s'était fait en 70-71. Et alors, donc, elle a revêtu la burde du troisième ordre, qui ressemble beaucoup à celle des franciscaines. Elle a commencé une vie de pénitence rigoureuse, puis elle a gravi rapidement les hauteurs les plus difficiles, hein, les plus abruptes de la vie spirituelle. Elle a exercé autour d'elle une influence profonde et durable. Et l'ensemble des œuvres mystiques d'Angèle, car elle a dicté des œuvres mystiques, eh bien, c'est contenu dans un ouvrage volumineux qui est intitulé « Le livre de l'expérience des vrais fidèles ». C'est un beau titre, hein? « Le livre de l'expérience des vrais fidèles ». Elle a eu plusieurs secrétaires pour écrire ça, mais le premier, le plus important, fut le frère Arnaud, un franciscain. De toute façon, ce qu'il faut admirer dans ces textes, c'est cette espèce d'union constante, là, d'une parfaite simplicité, d'un grand équilibre mental, avec la passion la plus ardente pour le Christ Jésus, puis le plus profond mépris pour soi-même. Ça pourrait être très dangereux, ces voies-là. Ça peut être difficile. Mais elle y est parvenue par la grâce de Dieu. Elle a été admirablement bien guidée par l'Esprit-Saint. Il y a plusieurs biographies d'elle. L'une des bonnes biographies a été publiée il y a très longtemps, il y a 60 ans, par Louis Le Clèves et Saint-Angèle de Foligno. C'est en 244 pages. Quant à l'œuvre, le livre de l'expérience des vrais fidèles, il y a le texte latin, car c'était dicté en latin, avec une traduction française qui est assez valable. C'est paru en 1927, mais j'ai une traduction beaucoup plus intéressante qui a été faite par Yvan Gobry, et je vous en lirai des extraits au fur et à mesure qu'on avancera dans la vie de la bienheureuse Angèle de Foligno, veuve, décédée ou entrée au ciel en 1309, un 4 janvier. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. À côté de Sainte-Catherine de Sienne et de Sainte-Catherine de Gênes, dont je vous ai déjà parlé, toutes les deux, eh bien, cette bienheureuse Angèle de Foligno occupe une place à part, hein, parmi les mystiques et les contemplatives du Moyen-Âge. Elle est vraiment l'une des plus brillantes incarnations de ce qu'on appelle l'idéal franciscain à la fin du XIIIe siècle. C'est une figure qui est vraiment émouvante de ce tiers-ordre. Au moment de toute sa splendeur, le tiers-ordre au début était quelque chose de très, 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 très sérieux. Je ne veux pas dire que c'est pas sérieux aujourd'hui, mais C'est extraordinaire. Il faut lire l'histoire du Tiers-Ordre au début. C'est extraordinaire. J'avais un gros bouquin là-dessus du père Gemelli que j'ai lu il y a très longtemps. Et c'était fantastique parce qu'ils avaient réussi à établir la paix là où régnaient toutes les escarmouches de duché en duché. Et les seigneurs se battaient puis entraînaient les paysans. Puis eux, au lieu de se battre, ils disaient « nous sommes frères ». Et ça fait régner la paix de façon surprenante. Angèle de Foligno, c'était une âme généreuse. Elle a brûlé, comme je vous ai dit tout à l'heure, de l'ardente passion d'imiter Jésus-Christ dans sa pauvreté, comme Charles de Foucault, dont je vous ai parlé aussi au début de décembre. Son humilité aussi, sa pénitence marque Angèle de Foligno. Mais je vous m'en garde, faites attention, là, il faut pas suivre nécessairement ses traces. Avec les franciscains rigoristes, car il y avait une division chez les franciscains, elle s'est rangée du côté des rigoristes, des gens qui étaient plutôt intégrés, si vous voulez, par rapport à la règle. Alors, elle a écarté les conseils de la prudence et de la sagesse humaine. Donc, il faut pas la suivre sur ce chemin-là. Ce qu'il faut imiter en elle, c'est l'amour. Et là, nous allons y arriver, parce que ce qu'il lui faut... au début de sa conversion, c'était cette fidélité stricte à la règle, à toute la règle. Elle voulait une imitation passionnée de Saint François d'Assise. Elle voulait le suivre en tous les moindres détails. Elle s'est rangée donc du côté de ce qu'on appelle les spirituels. C'est eux là qui étaient les très rigoristes. Hein. Alors, c'est ce qui apparaît surtout dans son livre, de toute façon, des visions et des instructions. Elle est née à Foligno, c'est à quelques kilomètres d'Assise. Ça, elle est née en 1248 ou 49, on n'est pas sûr. Mais c'est certainement l'une de ces deux années-là. Donc, c'est une petite ville de l'Ombrie, Foligno, vers le milieu, donc, du XIIIe siècle. Elle appartenait à une famille opulente, riche, jeune encore, d'ailleurs, et s'est engagée dans les liens du mariage. Elle a eu plusieurs enfants. Elle possédait de riches domaines. Elle vivait à Foligno dans un milieu mondain. Elle était entourée d'ailleurs d'une mère plutôt frivole. Et puis d'un mari, puis de garçons qui dépensaient beaucoup d'argent. Il semble qu'elle n'ait eu que des fils d'ailleurs. Elle nous dit d'elle-même qu'elle vivait dans le péché. Bon, on ignore comment s'est opérée sa conversion. De toute façon, elle a été saisie de remords à un moment donné. Elle a considéré avec effroi ses péchés, c'est-à-dire ce manque de recherche de la présence de Dieu, ce manque d'amour de Dieu, cet esprit de légèreté là qui fait que notre vie devient comme une espèce d'immense péché. Alors, elle a tremblé à la pensée de sa damnation, elle a eu peur. Il faut dire qu'à l'époque, on peignait dans les églises des scènes terribles, des fresques immenses de l'enfer et tout ça, ou du purgatoire. Elle est donc revenue à la pratique des sacrements. Elle s'est confessée, mais ce qui arrive souvent dans ces confessions dramatiques, elle a eu des hésitations, elle a eu, disons, une fausse honte. Elle n'a pas osé faire l'aveu de ses fautes les plus graves, puis elle est allée communier quand même. Et elle avait le sentiment, au fond de son cœur, de commettre des communions sacrilèges. Alors elle était tourmentée par de nouveaux remords, et elle s'est adressée à saint François d'Assise qui lui est apparu. Et le lendemain de cette apparition, elle s'est rendue à Saint-Félicien, la cathédrale de Foligno. Elle a abordé un franciscain, qui est chapelain de l'évêque. Elle lui a fait une confession intégrale de ses fautes. Elle écrit à ce sujet, « Il me fut donné de chercher... quelle était la voie de la croix, pour pouvoir me tenir au pied de la croix, refuge de tous les pécheurs. Et elle me fut enseignée, éclairée, présentée la voie de la croix de la manière suivante. Il me fut inspiré que si je voulais aller à la croix, je devais me dépouiller pour être plus légère et aller nue à elle, c'est-à-dire pardonner à tous ceux qui m'avaient offensé. Et me dépouiller de tout le terrestre, de tous les hommes et de toutes les femmes, de tous mes amis et parents, et de tous les autres, de mes biens et de moi-même. Donner mon cœur au Christ qui m'avait accordé les bienfaits susdits, et partir par la voie épineuse de la tribulation, et je commençais alors à me défaire de ce qu'il y avait de meilleur dans mes vêtements, dans ma nourriture et dans ma coiffure. J'avais pourtant assez de honte et de peine, parce que je n'éprouvais pas encore l'amour et que je vivais avec mon mari. Aussi éprouvais-je l'amertume quand on me disait des paroles blessantes et qu'on me causait quelque tort. Cependant, je supportais avec patience autant que je le pouvais. Or, il arriva que, selon la volonté de Dieu, ma mère, qui était pour moi un grand obstacle, trépassa. Et trépassèrent ensuite en peu de temps mon mari et tous mes fils. Alors elle perd toute sa famille. Alors ce fut alors que, toute purifiée, si on peut dire, elle est entrée dans les voies de la vraie pénitence et s'est adonnée à toutes sortes d'austérités, à la contemplation du Christ, son Sauveur. Elle en a recueilli des grâces précieuses et s'est offerte tout entière au Christ. Elle s'est engagée par vue à garder la chasteté perpétuelle. Elle a distribué aux pauvres ses vêtements de prix. Et sa famille, les cousins, cousines, des oncles, des tantes, etc., ont voulu entraver ce qu'on appelait ses folies. Coup sur coup, donc, elle a tout perdu. Elle avait 40 ans. Alors libre, désormais, Angèle s'est jetée dans les voies de la pénitence et de la prière, et les visions de Jésus crucifié se multipliaient pour elle. Elle écrit, « Tandis que j'étais en oraison, tout éveillé, le Christ m'apparut plus clairement sur la croix, c'est-à-dire qu'il me donna une meilleure connaissance de lui. » C'est vrai que si on contemple les crucifix que nous avons chez nous, on peut être pénétré, on peut faire la même chose avec le Saint-Suaire de Turin, la Sainte Face. Donc, tandis que j'étais en oraison, tout éveillé, le Christ m'apparut plus clairement sur la croix, c'est-à-dire qu'il me donna une meilleure connaissance de lui. Alors, il m'appela, il me dit de poser ma bouche sur la plaie de son côté. Ne vous énervez pas trop avec ce que je vais vous lire, c'est très particulier, mais c'est très beau, ça a rapport avec l'Eucharistie, avec la communion, mais c'est très, très spécial. Il me semblait que je voyais couler son sang, ajoute Angèle de Foligno, son sang tout frais de son côté, que je le buvais, et lui me donnait de comprendre que c'était dans son sang qu'il me purifiait. N'oubliez pas ce que je vous ai déjà dit sur le sang, hein, c'est l'âme, dans la perspective juive de l'Ancien Testament. Et c'est l'âme. Alors je continue ce beau texte. Et lui me donnait de comprendre que c'était dans son sang qu'il me purifiait. Alors, je commençais à ressentir une grande joie, malgré la tristesse que m'apportait la considération de la passion. Je priais le Seigneur de me faire répandre tout mon sang pour son amour, comme il l'avait fait pour moi. Je résolus, pour son amour, de vouloir que tous mes membres endurent une autre mort que la sienne dans sa passion, une mort plus vile. Je pensais dans mon désir que si je pouvais trouver quelqu'un pour me tuer, pourvu qu'il me fût permis de me laisser tuer pour la foi et pour l'amour du Christ, je lui demanderais de m'accorder cette grâce. Puisque le Christ fut crucifié sur le bois, de me crucifier sur quelque rive, dans le lieu le plus vil, sur l'instrument le plus vil. Et puisque je n'étais pas digne de mourir comme étaient morts les saints, qu'on me fit mourir plus honteusement et de mort lente. Je n'arrivais pas à imaginer une mort aussi vile que je la désirais. Au contraire, je souffrais vivement de ne pouvoir inventer une mort vile par laquelle je ne serais en rien semblable aux saints, car je n'en étais pas digne. C'est très particulier. Hein? C'est très particulier. Ce sont des grâces très spéciales, inimitables. Il faut se laisser conduire par l'Esprit Saint, c'est tout, si on est appelé à ça, mais je ne crois pas que grand monde soit appelé à ça. On peut admirer, on peut observer, comme on observe, disons, un très beau diamant d'un million de dollars, et on se dit que ce n'est pas pour nous. Hein. Or, Angèle de Foligno, désireuse vraiment de suivre Jésus, là, sans entrave, elle a voulu quitter définitivement le monde. Elle a voulu vivre pauvre. Elle voulait mendier. Elle qui était très riche d'origine. Mais tous ses conseillers, même les franciscains, l'en ont dissuadé. Hein. Dieu, dans ses visions, se montrait plus pressant, puis sa grâce a triomphé. Angèle a vendu son principal domaine, elle a distribué le prix aux pauvres. D'ailleurs, avant de prendre cette dernière décision, elle avait fait le pèlerinage de Rome. C'est pas tellement loin, Assise de Rome, mais c'est un bon pèlerinage quand même. Hein. Et, parce qu'elle habitait près d'Assise, à Foligno, elle a fait le pèlerinage de Rome pour obtenir de Saint-Pierre la pauvreté absolue. Elle s'était sentie exaucée. N'oublions pas que Saint-Pierre, hein, comme les apôtres, ce sont des gens qui ont suivi Jésus dans la pauvreté. Après ce dernier sacrifice, eh bien, Angèle a vécu en recluse avec une compagne nommée Marie. On retrouve ça souvent, hein? Des gens qui ont comme grande amie une personne qui s'appelle Marie. Marie était une âme très simple, était une grande amie de Dieu. Les faveurs divines que recevait Angèle de Foligno étaient des ravissements qui revêtaient des formes violentes parfois. Alors on l'a traitée de démoniaque. Elle est tombée malade et sa compagne, Marie, a craint de la voir mourir. Mais cependant, vers 1290, elle a été reçue parmi les pénitentes, là, du tiers-ordre franciscain. Et à 42 ans, donc, elle a fait profession de la Sainte-Règle. Elle écrit, Angèle de Foligno, « J'étais à vêpres et je regardais la croix. Et tandis que des yeux du corps, je regardais le crucifié, subitement, mon âme fut enflammée d'amour et tous les membres de mon corps ressentirent une immense joie. Je voyais et je sentais le Christ qui, au-dedans de moi, enlaçait mon âme avec ce bras qui subit la crucifixion. Cela se passait à cet instant ou peu après. Je me réjouissais dans une joie et une certitude plus grandes que d'habitude. Et depuis, mon âme est restée dans cette joie, grâce à laquelle elle comprend comment cet homme, le Christ, se tient dans le ciel. Comment nous voyons cette chair qui est nôtre ne faire qu'une seule société avec Dieu. C'est là pour l'homme une jouissance beaucoup plus douce qu'on ne peut l'écrire ou le raconter. De cette joie continue, il me reste une telle sécurité que même si toutes les paroles que nous avons écrites étaient fausses, il ne subsisterait en moi absolument aucun doute au sujet de Dieu, car cet état est très certainement de lui. J'ai de Dieu une si grande certitude que même si tous les hommes me disaient que j'en puis douter, je ne les croirais pas. Je m'étonne maintenant, en me rappelant le temps où je cherchais la certitude, où je doutais. Mais maintenant, il ne peut y avoir en moi aucun doute concernant la certitude de Dieu. En somme, la certitude de l'existence de Dieu et de son amour. Et elle continue, « Et je me réjouis de voir ainsi cette main qu'il me montrera avec les traces des clous quand il dira, « Voici celle qui a souffert pour vous. » La joie que l'âme trouve ici ne se peut aucunement raconter. Actuellement, il m'est tout à fait impossible de ressentir quelque tristesse de la passion. Je trouve au contraire mes délices à voir cet homme, Jésus, à m'approcher de lui. Toute ma joie est désormais dans ce Dieu homme souffrant. Parfois, il semble à mon âme, avec quelle joie et quelle jouissance, qu'elle entre dans le côté du Christ. Et c'est avec une telle joie qu'elle s'enfonce dans le côté du Christ que c'est impossible à dire ou à raconter. Aussi, lorsqu'on représenta la Passion sur la place Sainte-Marie et que c'était, semble-t-il, le moment de pleurer, je fus au contraire miraculeusement saisi et charmé par une joie si forte que je perdis la parole. Dès que j'eus commencé à goûter cet inexprimable sentiment de Dieu, je tombai à terre. Je m'efforçais alors de m'écarter de la foule et je regardais comme une grâce miraculeuse d'avoir pu m'éloigner un peu. Étendu sur le sol, j'avais perdu l'usage de la parole et des membres. Il me semblait que mon âme entrait profondément dans le côté du Christ, et je n'éprouvais nulle tristesse, mais un sentiment de joie si grande qu'on ne put l'exprimer. Or, avant les événements précités, nous avions souvent pleuré, ma compagne et moi, car je désirais d'un grand désir ne pas être trompé, savoir que je n'étais pas trompé. Je pensais, si seulement je pouvais savoir que je ne suis pas trompé, tout est là pour moi. Et maintenant, je me trouve dans une telle certitude que je ne doute plus et que je ne puis plus douter. Quelle richesse dans ces textes. Et à cette époque, bien Angèle a fait le pèlerinage d'Assise avec ses nouveaux amis, les spirituels, les franciscains stricts. Elle venait de dépasser Spello et arriver au carrefour d'où part le sentier qui monte à Assise quand Dieu l'a saisie et l'envahit comme jamais ne l'avait fait. Et dans la soirée, pendant une seconde visite à l'église Saint-François, mais il la quitta. Et Angèle, tombant à terre, a poussé des cris qui effrayèrent les frères et les amis. Ils la crurent folle ou possédée, son confesseur n'osait s'approcher d'elle. Quand elle eut retrouvé son calme, il lui interdit de venir désormais à Assise. Alors elle rentra à Foligno où son confesseur la rejoignit. Il finit par apprendre ce qu'il y avait eu de mystérieux dans ce pèlerinage. Alors, il commença à rédiger ses notes pour le fameux mémorial. Et l'année suivante, soit en 1292, probablement, Angèle reparut à Assise, au mois d'août, pour la fête de Sainte-Claire, et ses visions se multiplièrent. Les frères étaient scandalisés des fréquents entretiens d'Angèle avec son confesseur, alors ils ont interdit ses séances dans l'église des franciscains. 2 ans plus tard, à partir de 1294, Angèle fut en proie de grandes souffrances, qui ont duré, semble-t-il, jusqu'à la fin de sa vie. Et 2 ans après, elle fit un nouveau pèlerinage à Assise. Le mémorial, terminé en 1297, fut lu et approuvé par le cardinal Jacques Colonna, très grande famille italienne, grand ami des spirituels, des franciscains stricts, et Angèle devint alors la mère de nombreux et fervents disciples. Alors, très probablement, en 1298, elle avait 50 ans, elle a rencontré le fameux frère Hubertin de Casals, qui n'était pas facile, cet homme-là. Elle l'a arraché à sa vie relâchée. Elle lut les secrets de son âme, elle l'a illuminé, elle l'a embrasé du feu divin, elle en a fait un apôtre tellement passionné du rigorisme, qu'il ne fut pas toujours se maintenir dans des limites justes. C'était un curieux personnage. Comment vous dire ou vous faire une description de lui? On peut dire qu'il avait une intransigeance, même une violence dans le caractère. Il a été choisi pourtant pour chef des spirituels de Toscane. Et on appelait les spirituels, comme je vous ai dit, les frères mineurs, qui refusaient la règle définitive de l'ordre et surtout, depuis 1260, les constitutions rédigées par Saint Bonaventure, qui prétendaient que la seule loi était le testament de Saint François. C'était un homme bien particulier. Mais sincère, très sincère. Ce ne fut pas sa seule conquête à Angèle de Foligno. Elle vécut désormais à Foligno et remontait de temps en temps à Assise, et aucun événement marquant dans sa vie n'était signalé durant cette période de trouble. Il occasionna bien des souffrances, c'était terrible, il y avait des guerres. Or, c'était pas facile la vie à cette époque dans l'Église. Et après le règne décevant de Saint Célestin V, je vous en parlerai de Saint Célestin le 19 mai prochain, vous savez, c'était un ermite qui a été choisi, lui, qui était ermite, qui a été élu pape. Il n'était même pas... Il était prêtre, mais il n'était pas cardinal. Alors, il a démissionné, d'ailleurs, devant la charge épouvantable. De toute façon, Angèle de Foligno a vu, après le règne de ce pape, elle a vu les intrigues, les querelles, les guerres du pontificat de Boniface VIII aussi, qui était un grand pape sous certains rapports, mais qui a été élu, lui, en 1294, n'est-ce pas? Il y a eu des conflits de plus en plus violents là, entre les rigoristes franciscains puis les conventuels franciscains. C'était pas facile. Très curieux, cette histoire. Alors, quelques années plus tard, en 1305, ce fut pour elle une immense tristesse de voir le pape Benoît XI qui fuyait Rome, la ville de Rome qui était révoltée. Et le pape s'est réfugié à Pérouse. Et encore quelques années, elle verra le pape français Clément V à Avignon, qui ne voulait même pas venir en Italie. Alors, personnellement, Angèle n'échappe pas aux gens qui lui en veulent. Sa vie extraordinaire, son enseignement rigoriste lui attire bien des critiques. C'est elle qui anime les plus fervents. Et un document du 14e siècle la présente comme suscitée de Dieu pour confondre la lâcheté de ceux qui proclament impraticable la vraie règle de saint François. Alors, pendant 3 ans encore, elle soutient ses disciples, et en 1307, elle passe par Spello avec la bienheureuse Pascaline, sa compagne. Elle visite les Clarisses, elle fait le pèlerinage d'Assise et de Sainte-Marie-des-Anges, puis elle rentre à Foligno. Et l'année suivante, en septembre, il y a un mal qui la terrasse. Alors là, elle souffre douloureusement pendant 2 semaines, puis le calme revient, mais les derniers jours semblent une anticipation du ciel, et Angèle meurt sans souffrance, entourée de nombreux frères, le 4 janvier 1309, en l'octave des Saints Innocents après Compiègne. Elle a 59 ou 60 ans, et tout ça, il y a près de 700 ans. Elle a beaucoup parlé de l'oraison, de la prière. On a de très beaux textes d'elle à ce sujet. Et quand elle parle de l'oraison, elle raconte « Tandis que je méditais sur la passion, cette parole me fut adressée au tréfonds de l'âme. » Écoutez bien ça, c'est extraordinaire. C'est une des choses que la plupart des gens qui connaissent Angèle de Foligno retiennent d'elle. C'est cette parole du Christ qu'elle entend au fond de son âme. « Ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé. Ce n'est pas une simagrée de ma part que de m'être fait ton serviteur. » Je répète cette parole de Jésus qu'elle a entendue dans le fond de son âme. « Ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé. Ce n'est pas une simagrée de ma part que de m'être fait ton serviteur. » Quand elle parle de l'oraison, elle dit qu'il y en a 3 sortes. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ souffrant, amen. C'est dans l'oraison que l'on trouve Dieu. Il y a 3 écoles, ou plutôt 3 parties de l'oraison, en dehors desquelles on ne trouve pas Dieu. L'oraison est en effet corporelle, mentale ou surnaturelle. Tout d'abord, l'oraison corporelle. C'est celle qui use de mots sonores et d'exercices du corps, comme les génuflexions. Celle-là, je ne l'abandonne jamais. Quand je voulais m'exercer à l'oraison mentale, je me laissais parfois surprendre par la paresse ou le sommeil et je perdais mon temps. Aussi, je m'exerce à l'oraison corporelle. C'est elle qui conduit à l'oraison mentale. Elle doit être menée avec attention. Lorsque tu dis le Notre Père, prends garde à ce que tu dis, et ne te préoccupe pas d'en dire un certain nombre, comme ces bonnes femmes qui font des tâches rémunérées. Elle insiste beaucoup sur le Notre Père, et elle médite souvent sur le Notre Père. Elle écrit d'ailleurs à ce sujet des choses sublimes, très 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 belles. Alors donc, la deuxième, c'est l'oraison mentale. L'oraison est mentale lorsque, dit-elle, la méditation de Dieu occupe tellement l'esprit, car elle ne permet plus de parler, et l'esprit est tout entier plein de Dieu, de sorte qu'il ne peut plus être occupé en pensée comme en parole que de Dieu, ou de ce qui concerne Dieu. C'est cette oraison mentale qui mène à la surnaturelle. Alors là, la troisième, donc, elle dit, j'appelle surnaturelle l'oraison qui, et c'est super, mais bon, rares sont les gens qui atteignent ça, j'aimerais bien atteindre ça avant de mourir. J'appelle surnaturelle l'oraison qui, par la faveur divine et la méditation, élève l'âme si haut, qu'elle se hausse comme au-dessus de sa propre nature et comprend Dieu mieux qu'elle ne le peut par sa propre nature et connaît ce qu'elle ne peut comprendre. Et ce qu'elle comprend, elle ne peut l'expliquer, car à peu près tout ce qu'elle voit et tout ce qu'elle sent dépasse sa propre nature. C'est dans ces 3 écoles de raison qu'on connaît que l'on est et ce qu'est Dieu. De cette connaissance, on vient à l'amour. Écoutez bien ça, c'est beau ça. De cette connaissance, on vient l'amour, et plus on aime, plus on désire posséder celui qu'on aime. Et voici le signe du véritable amour. Celui qui aime se transforme en l'aimé. Non pas partiellement, mais totalement. Hein? Comme cette parole que je ne cesse de vous citer de saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et saint Angèle ajoute, comme cette transformation n'est ni continue ni définitive, l'âme est saisie du désir de chercher par tous les moyens à se transformer en la volonté de l'aimer, afin de retourner encore à la vision, et elle cherche ce qu'aime celui qu'elle aime. Donc elle veut conformer ses goûts au goût de Jésus. Dieu le Père nous a tracé la voie par l'aimer, Jésus, c'est-à-dire par son Fils, qu'il a fait fils de la pauvreté, de la douleur, de l'opprobre et de la véritable obéissance. Les contemporains d'Angèle de Foligno l'avaient considérée comme une sainte. Et sans doute, on peut dire que dès sa mort, l'ensemble des gens l'ont proclamée bienheureuse. Et bien vite, ses compatriotes dans l'ombrie, à Foligno, à Assise, etc., lui ont rendu un culte que l'Église n'a pas cessé d'approuver. En 1701, c'est longtemps plus tard, ça, c'est 400 ans plus tard, la fête a reçu un office propre, c'est-à-dire qu'on a rédigé un texte spécial. Et cette fête se célébrait le 30 mars dans l'ordre franciscain, mais la réforme de Pie X, qui était pape au début du siècle, Saint Pie X, en reportant la fête au 4 janvier, l'anniversaire de son entrée au ciel, mais il a sanctionné définitivement cette tradition. Benoît XIV, dans son De Beatificatione, un immense ouvrage, a rappelé la concession qui avait été faite en 1701, puis il dit ce qui suit, c'est important, « Touchant la bienheureuse Angèle de Foligno, il n'a pu trouver aucune trace d'une canonisation officielle, ni d'une concession de culte public avant l'acte de 1701. Il l'arrange donc parmi ces bienheureux qui se trouvent en possession antique de culte, bien qu'il n'ait pas été l'objet d'un procès canonique. Donc, on peut la considérer comme vraiment béatifiée. Pour ses écrits, on a fait l'éloge du livre des visions et instructions de la bienheureuse Angèle de Foligno, qui avait été traduit par Ernest Hello au début du siècle. Un jour, je vous parlerai d'Ernest Hello, qui est un personnage très intéressant. C'est paru à Paris en 1910. Et l'éloge qu'on en a fait dans les ouvrages les plus sérieux portait surtout, on peut dire, sur le mérite d'Ernest Hello, bien d'avoir traduit ça en français, puisque c'était toujours en latin avant. Et puis, il se trouve que la traduction, on peut pas s'y fier vraiment, parce que le texte latin mérite même pas lui-même toute notre confiance. C'était le jugement, en tout cas, du père Paul Doncœur, dans la fameuse revue apologétique en 1922 au mois d'août, et aussi le même Paul Doncœur, qui était très populaire comme jésuite, il y a une soixantaine d'années, cinquantaine d'années, mais il a voulu, à l'aide des manuscrits comparés par l'analyse des documents aussi, nous donner une bonne édition du texte latin, puis en faire une traduction française, et alors, il l'a fait, et c'est paru sous le titre « Le livre de Saint-Angèle de Foligno, édition critique en 1925 ». Et puis, les titres exacts, c'est le livre de la bienheureuse Angèle de Foligno, document édité par le père Paul Doncœur, avec le concours de Monseigneur Falocci Pugliani, paru à Paris en 1926. Il y a aussi le livre de la bienheureuse sœur Angèle de Foligno, du Tiers-Ordre de Saint-François, document originaux édité, traduit par le père Paul Doncœur, Paris 1926 encore. En tout cas, il y a trois parties là-dedans. Il y a le mémorial, dont il était question tout à l'heure, là, du frère Arnaud, là, qui était le confesseur d'Angèle. C'est l'exposé en 9 chapitres des étapes par lesquelles Angèle a été amenée à se convertir. La deuxième partie, ce sont des documents, des lettres, des récits, en 33 chapitres. Les enseignements d'Angèle à ses disciples, quoi. Puis la troisième section, ce sont les derniers enseignements, en 3 chapitres. Alors, les deux dernières parties, là, la deuxième et la troisième partie, elles sont moins étendues. Alors, de toute façon, le père Doncœur a ajouté même une dizaine de textes inconnus jusqu'à nos jours et qu'il avait retracés. En somme, si imparfaite quelle ait été l'œuvre d'Angèle de Foligno à travers les siècles, on peut s'y fier d'une façon sérieuse pour l'ensemble de ces documents. Et en raison de ces écrits, bien les grands spécialistes de la pensée spirituelle de l'Église, les grands théologiens spirituels, ont été unanimes à déclarer qu'Angèle de Foligno était l'une des grandes mystiques catholiques, telles Saint François de Sales, Bossuet, Fénelon, dont je vous parlerai un jour, Saint Alphonse de Liguori, pour n'en citer que quelques-uns, et Benoît XIV vénérait cette mystique Angèle de Foligno à l'égal de Sainte Thérèse d'Avila, de Saint Pierre d'Alcantara et de Saint Jean de la Croix. C'est pas peu dire. Pour vous prouver jusqu'à quel point cette Angèle de Foligno est éminente parmi les grands mystiques, je vous lis un autre texte qu'on pourrait appeler les sept dons de Dieu. Voici ce beau texte. Celui qui aura pu obtenir en perfection ces dons très doux de Dieu doit savoir qu'il est consommé et parfait dans le très doux Seigneur Jésus-Christ, et qu'il est devenu ce même très doux Seigneur Jésus-Christ par la transformation. Et plus dans ses dons il progressera, plus croîtra en lui l'être du très doux Jésus. Le premier don est l'amour de la pauvreté, par lequel l'âme se dépouille de l'amour de toute créature en sorte qu'elle ne veut rien posséder si ce n'est notre Seigneur Jésus-Christ, qu'elle n'espère en cette vie le secours d'aucune créature et le montre par ses œuvres. Ça veut pas dire de ne pas aimer les siens, mais c'est d'être prêt à accepter leur décès, les séparations, etc. C'est très subtil, c'est très difficile à expliquer. Je sais, je comprends, mais mon Dieu, comment expliquer ça? Là, elle parle du deuxième don. Le second don est le désir d'être méprisée, vilipendée, couverte d'opprobre par toute créature et la volonté que toute créature l'en juge digne. Si bien que personne n'ait compassion d'elle et qu'elle ne veuille vivre dans le cœur de personne, si ce n'est de Dieu seul, et d'être enfin tenue pour rien en quoi que ce soit. C'est extrêmement difficile, n'est-ce pas, d'accepter d'être accusé indignement, etc., d'accepter des injures. Extrêmement difficile. Pour elle, c'est le deuxième don de Dieu. Le troisième don, qu'est-ce que c'est? Elle dit que c'est le désir d'être meurtri, affligé et submergé par toutes les douleurs du cœur et du corps de notre doux Seigneur Jésus-Christ et de sa très douce mère, souhaitant que toutes les créatures lui fassent subir ses douleurs sans aucun repos. Et si l'on ne peut vouloir ces trois choses, qu'on sache qu'on est très loin de la très douce ressemblance du Christ béni, car ces trois désirs de la douleur, de la pauvreté, de l'abaissement l'ont accompagné dans leur plus parfaite expression en tout lieu, en tout temps et en toute action, et de la même façon ils ont accompagné sa mère. Alors quand on lit ça, on hausse les épaules, moi le premier, et je me dis, en fait, je lis le texte, elle a raison. Mais je me dis, mais c'est épouvantable, mais c'est ça le christianisme, c'est cette identification profonde, n'est-ce pas, avec Marie, avec Jésus, dans ce détachement, dans ce dépouillement total, hein? Très difficile. Quatrième don, qu'est-ce que c'est le quatrième don d'après Angèle de Foligno? Voici, le quatrième don pour toute personne, c'est de se savoir indigne d'un si grand bien, et incapable de le posséder par soi-même. Et que plus on en a, moins on semble en avoir, car celui qui a moins de la chose aimée perd l'amour. Qu'on ne s'imagine jamais être arrivé, mais qu'on se regarde toujours comme un commençant, qui jusque-là n'a rien fait, ni rien possédé de tout cela. Bon, ben, je pense bien que pour l'ensemble des gens, on est là, hein, on sent bien qu'on est au début, hein? Alors qu'on ne s'imagine jamais être arrivé. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui pense être arrivé. Que c'est beau tout ça, mais que c'est pas facile. Hein? Faut se fier à la grâce de Dieu en nous. Et le cinquième don, Bien, le cinquième don consiste, dit Angèle de Foligno, à s'efforcer d'avoir sans cesse à l'esprit la manière, c'est très beau ça, la manière dont ses désirs furent dans le Seigneur Jésus-Christ, et de crier au Seigneur par un continuel soupir, de nous donner et de mettre dans notre cœur ses désirs, qui furent ses vêtements et ses compagnons. En somme, avoir dans notre cœur les mêmes désirs que Jésus, les mêmes aspirations. Elle continue en disant, c'est dans cette parfaite transformation qu'on doit mettre toute la joie de cette vie. C'est dans cette parfaite transformation qu'on doit mettre toute la joie de cette vie. Si vous retenez seulement cette phrase, vous n'aurez pas perdu cette heure. Il faut s'efforcer de s'élever jusqu'à concevoir comment le cœur du très doux Jésus en fut comblé et débordant. Infiniment plus qu'il ne l'a manifesté dans son corps. Et là, le sixième don, elle dit que c'est de fuir comme la pire des pestes tout ce qui s'oppose à la possession de ses désirs, que ce soit personne charnelle ou spirituelle, d'avoir en horreur, d'éviter et de mépriser comme un serpent tout ce qui, en cette vie, lui semble différent ou opposé au désir de Jésus. Le septième don, le dernier, est de ne porter de jugement sur aucune créature et de ne pas s'embarrasser de juger les autres, ainsi que le dit l'Évangile. Pas facile, hein? On est toujours porté à ça. Pas facile, mais que c'est beau. Hein? C'est bon de se le rappeler, ces vérités fondamentales. Elle ajoute, cette chère Angèle de Foligno, « Mais il convient de se croire plus vil que tous les méchants et indigne de tout secours de Dieu. Et parce qu'on est encore faible et incapable de servir Dieu sans espoir de récompense, eh bien qu'on sache bien que c'est cela qui mérite de posséder pleinement Dieu dans la patrie, et même de se voir l'âme transformée tout entière en Dieu. Et cela est si vrai, ajoute Angèle, que même en cette vie, Dieu confère grandement cette transformation à l'âme qui reproduit en elle ses abaissements, ses privations et ses souffrances. Hein, les abaissements, les privations, les souffrances que Jésus a endurées. Toutefois, elle termine en disant, l'âme ne doit pas en cette vie rechercher ni désirer ses divines consolations, à moins que ce ne soit pour réconforter sa faiblesse. Elle doit rechercher seulement la parfaite crucifixion du Christ, douloureuse, pauvre et méprisée. J'ajouterai que tout cela mène à quoi? À la résurrection. Cela mène à la vie. Cela mène à ce grand sourire qui habite la figure des saints. La tendresse dans le regard, la joie. Cette joie, et qui est à nul autre pareil, hein? C'est Guigue, le neuvième prieur de la Grande Chartreuse, qui écrivait « La contemplation est une élévation de l'âme attirée au-dessus d'elle-même et savourant les joies de la douceur éternelle. » Alors le dépouillement permet justement cette contemplation dont sont capables certains chartreux. La contemplation est une élévation de l'âme, attirée au-dessus d'elle-même, et savourant les joies de la douceur éternelle. C'est ça. C'est ça le bonheur que nous enseigne très ardument la bienheureuse Angèle de Foligno, qui a écrit tellement de très belles choses, très très belles choses. Elle a eu des grâces extraordinaires. Elle pouvait contempler assidûment notre Seigneur Jésus-Christ, mais à travers de grandes aridités. Ce qu'elle contemplait surtout, c'était les plaies de Jésus, les plaies sacrées. Et elle a mérité d'y découvrir de grandes merveilles. Il s'est formé alors en elle un grand brasier d'amour et de si profonds sentiments de regret de ses péchés dans son cœur qu'elle en a été transformée. Elle a senti qu'elle devait se dégager des créatures. Elle a senti qu'il fallait pardonner sans aucune exception à tous ceux qui l'avaient offensée, et qu'il lui était très avantageux, comme elle le dit, d'être privée de la compagnie de tous les hommes, d'être éloignée de mes amis, de mes parents, de quitter tous mes biens, et de mourir entièrement à moi-même, pour être en état de me consacrer totalement à Dieu. Mais elle avait des amis quand même, elle avait des gens qui l'aimaient, elle s'occupait des autres, elle veillait au bien des autres. Quand elle parle de s'en détacher, c'est autre chose. Elle écrit d'ailleurs « J'ai commencé pour cet effet à mépriser les riches étoffes et les modes séculières. Je quittais les coiffures mondaines et affectées. Je me privais des viandes délicates et j'avoue cependant que je ne répondais pas sans peine au mouvement de la grâce qui me portait à faire tout cela, mais sans aucun goût, car je n'expérimentais point alors les douces impressions de l'amour sacré qui rendent douces et faciles les choses les plus amères et les plus difficiles. » Et c'est ça le problème. C'est qu'au début, on s'imagine que ça va être difficile, mais tout à coup, Dieu remplit l'âme. Et pour ce qui est du pater, je voudrais terminer là-dessus, sur ce bel, beau texte qu'elle a écrit sur l'oraison dominicale, comme on dit, sur le pater, le Notre Père, pour lesquels, je vous ai dit tout à l'heure, elle avait une très grande dévotion. Elle a connu si clairement l'excès des bontés divines d'une part et l'abîme de ses propres indignités de l'autre, qu'elle avoue qu'elle n'a pas d'expression pour faire connaître ce qui lui fut inspiré sur ce sujet. Elle écrit « On m'expliquait dans le fond de mon cœur tous les mots du Pater, du Notre Père, avec tant de netteté. » On m'expliquait, c'est-à-dire, c'est l'Esprit Saint en elle qui lui faisait découvrir ça. Donc, je recommence. On m'expliquait dans le fond de mon cœur tous les mots du Pater avec tant de netteté que j'en prononçais toutes les paroles avec tant de contrition et de recueillement intérieur que, quoique je fusse plongé dans une grande douleur pour le ressouvenir de mes péchés, je ressentais néanmoins, d'ailleurs, une grande consolation. Et je savourais quelque chose de ces douceurs célestes, dont Dieu fait quelquefois part à ses favoris, et je n'ai jamais trouvé de meilleur moyen pour bien connaître les miséricordes et les bontés de Dieu sur les hommes que de réciter cette oraison dont Jésus-Christ même est l'auteur. On pourrait se dire peut-être que certains spirituels, des gens qui nous disent que, sous prétexte d'élévation, on peut et on doit même laisser toutes les prières vocales pour écouter la voix de Dieu dans un plus grand silence. C'est délicat. Pourquoi pas s'appuyer sur le Notre Père? Pourquoi pas s'appuyer sur des oraisons jaculatoires, comme on dit? Pourquoi pas? Pourquoi pas se dire que c'est en se fiant vraiment aux façons de faire d'une femme comme celle-là, en s'appuyant sur le Notre Père lentement médité. Elle dit d'ailleurs que son amour de Jésus dans l'Eucharistie, c'était quelque chose de très important. Elle dit « Ce Dieu homme prit toute disposition pour rester en tout avec nous toujours. Hein? » Il nous a laissé l'Eucharistie, Jésus. Alors elle continue « Ainsi donc, il ordonna ce très saint sacrifice, non seulement pour mémoire de sa mort, laquelle est notre salut, mais encore afin de demeurer avec nous tout et toujours. Quiconque voudrait parvenir à sonder cette profondeur, il lui faut de bons yeux. » Et c'est vrai. Alors, dans les moments de sécheresse spirituelle, elle écrit à son fameux Hubertin de Casale, dont je vous ai parlé tout à l'heure, « Accomplis donc, durant la sécheresse, les mêmes œuvres que tu ferais en période de consolation. » Et c'est un des grands secrets, ça, de la vie spirituelle. Et elle parle aussi de la joie mystique. Elle dit souvent, « Dieu opère en l'âme des merveilles qui, je le vois, ne peuvent être produites par aucune créature, sinon Dieu seul. Et subitement, l'âme se trouve élevée en Dieu, en telle liesse ou en telle joie, si vous voulez, que si cet état durait, il me semble que le corps perdrait tout usage des sens et des membres. » Et elle conclut en disant « Souvent, Dieu accomplit ses merveilles en l'âme et avec l'âme. » Et je termine avec ces dernières paroles qu'elle nous a laissées. « Mes petits-enfants, efforcez-vous à la charité pour tous les hommes. En vérité, je vous le dis, mon âme a davantage reçu du Seigneur quand j'ai pleuré et souffert pour les péchés du prochain que lorsque je pleurais pour mes propres péchés. Le monde se moque de mes affirmations. En effet, Il semble contre nature de pleurer et de souffrir pour les péchés du prochain comme des siens, voire plus que des siens. Mais cette charité, efforcez-vous de l'acquérir, et alors ne jugez personne. Même s'il vous arrive de voir quelqu'un pécher mortellement, ne jugez pas les pécheurs. Vous ne connaissez pas le jugement de Dieu. C'est très riche comme pensée. C'est à méditer, on peut y réfléchir longuement, longuement. Car tout est là, au fond, chez Angèle de Foligno. C'est cette charité extraordinaire à l'égard de tout homme, de toute femme, tout enfant. Et en même temps, un grand détachement spirituel qui fait qu'elle a pu passer à travers la perte de son mari et de tous ses fils à l'âge de 40 ans. En continuant à monter vers les sommets de la vie spirituelle et en se dégageant complètement de ses attaches pour ne vivre qu'avec Dieu, que pour Dieu et avec Dieu. C'est une sainte exceptionnelle, difficile, mais merveilleuse et vraiment comparable aux plus grands mystiques de l'histoire de l'Église.